Il est 7h00 en temps universel, au micro Nanit Talani. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui. On vous en dit plus dans les prochaines minutes. En attendant, voici les principaux titres de cette édition de ce lundi 17 juin 2023. La France se retire massivement du Sahel, redessinant son engagement en Afrique. Le Burkina Faso frappé par une attaque djihadiste à Monsina, annonce faite par l'association des étudiants de la localité. En RDC, un mercenaire roumain et des militaires congolais tués, un casque bleu blessé dans des attaques distinctes. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, réélu, va former une coalition avec l'Alliance démocratique et Inkatha. En France, législative anticipée après la dissolution de l'Assemblée par le chef de l'État, Macron, Bardella et Hollande en campagne. Dans la seconde partie, nous découvrirons le règne de l'informel à Libreville au Gabon, avec notamment les vendeurs ambulants et les mototaxis. Puis, nous irons au Bénin voir l'impuissance des lois contre le travail des enfants. N'oubliez pas vos rendez-vous habituels avec l'économie et le sport. En attendant, voici le journal. La France veut réduire à quelques centaines d'hommes sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale dans le cadre de partenariats rénovés et plus discrets annoncés par le président Emmanuel Macron après de cuisantes déconvenues au Sahel. Selon le plan envisagé par l'exécutif, actuellement discuté avec les partenaires africains, Paris prévoit d'abaisser drastiquement ses forces dites prépositionnées sur des emprises militaires. Elle ne gardera en principe qu'une centaine de militaires au Gabon contre 350 aujourd'hui, une centaine au Sénégal contre 350 actuellement, une centaine en Côte d'Ivoire contre 600 aujourd'hui et environ 300 au Tchad contre 1000 actuellement, d'après deux sources proches de l'exécutif et une source militaire. Au Burkina Faso, une attaque djihadiste meurtrière dont le bilan exact est inconnu a visé mardi la localité de Monsila dans le nord-est du pays près du Niger. C'est ce qu'ont affirmé de sources locales et sécuritaires hier, Le Point avec Rosine Munezero.
L'attaque a eu lieu le 11 juin, indique l'association des élèves et étudiants de Monsila dans un communiqué publié sur Facebook. Confirmant l'attaque, une source sécuritaire a indiqué qu'il y a eu des pertes à Monsila et que beaucoup d'éléments sont portés disparus. Aucun bilan officiel n'a été dévoilé et les autorités n'ont pas communiqué sur cette attaque qui a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Vendredi, le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina était apparu au journal télévisé national, donnant son sang dans la capitale Ouagadougou après deux jours d'incertitude à la suite de la chute d'un obus dans la cour de la télévision publique située près de la présidence. Le capitaine Traoré n'avait pas communiqué depuis cet événement, qualifié d'incident de tir par la télévision d'État burkinabé RTB. Le Burkina Faso, comme ses voisins le Mali et le Niger, est frappé depuis près de 10 ans par des attaques de groupes djihadistes qui ont fait plus de 20 000 morts et 2 millions de déplacés.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un mercenaire roumain et deux militaires congolais ont été tués et un casque bleu de l'ONU a été blessé au cours de 3 incidents séparés survenus samedi. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Un responsable sécuritaire de la zone a déclaré sous couvert d'anonymat qu'un contractant militaire privé a été tué et 3 autres ont été blessés samedi par une frappe de missile sur une base de l'armée congolaise à 10 kilomètres au nord de Goma. Le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie a indiqué dimanche que la personne décédée et 2 personnes blessées sont de nationalité roumaine et que la 3e personne blessée est d'une autre nationalité. Plusieurs chaînes de télévision roumaines ont présenté le combattant tué comme un mercenaire roumain sous contrat avec l'armée congolaise. À environ 200 km au nord de Goma, autour de la grande ville commerçante de Butembo, au moins 2 militaires des forces armées de la RDC ont été lâchement brûlés au cours d'une embuscade tendue par la jeunesse. Propos du colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, où est situé Butembo. Toujours autour de Butembo, un convoi de la MONUSCO a été attaqué samedi soir. Le convoi n'avait pu se rendre à destination à cause de barricades érigées par des groupes hostiles à la présence de la MONUSCO, a-t-on appris auprès de la mission onusienne. Le président de la société civile de Butembo a indiqué avoir interdit à la MONUSCO de circuler. Selon lui, les casques bleus doivent attendre la fin de leur mission dans leur campement.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, réélu vendredi pour un second mandat, va former un gouvernement de coalition inclusif après la perte de la majorité absolue de son parti au Parlement, a annoncé l'ANC ce week-end. Le point avec Gaby Dorsila.
Le parti du Congrès national africain a trouvé vendredi un accord de gouvernement inédit avec le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, le parti nationaliste Zulu Inkatha et d'autres petites formations après les législatives du 24 mai qui ont marqué un tournant historique en Afrique du Sud en mettant fin à 30 ans d'hégémonie de l'ANC. Le parti de Nelson Mandela s'est dit prêt à mettre de côté les divergences politiques et à trouver des moyens innovants pour travailler ensemble dans l'intérêt de la nation. Des Sud-Africains continuent toutefois d'exprimer leur scepticisme concernant l'accord de gouvernement scellé vendredi, en particulier celui entre l'ANC et la DA, deux partis qui s'opposent farouchement depuis de longues années. La réélection de Cyril Ramaphosa, 71 ans, a été saluée samedi par de nombreux pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, le Zimbabwe voisin et par la Commission européenne. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également félicité le président Cyril Ramaphosa.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une semaine après la décision du président Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, la France entre officiellement aujourd'hui en campagne pour des législatives anticipées sur la base de candidats désormais définitifs et d'alliances nouées à la hâte. Abdourahmane Dia nous en fait le point.
Pris de court dimanche dernier, les partis avaient jusqu'à hier pour investir leurs candidats dans les 577 circonscriptions. La crainte d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue samedi et jeté la classe politique dans d'intenses tractations. Dimanche soir, le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a déclaré qu'il était contre les extrêmes, les idées qui divisent. Sans prendre ouvertement position, il a appelé la jeunesse à voter. Le dirigeant du Rassemblement national, Jordan Bardella, 28 ans, jugé trop jeune et sans expérience pour le poste de Premier ministre par l'ancien président Nicolas Sarkozy, a annoncé qu'il y aurait un candidat commun avec la droite dans 70 circonscriptions. À gauche, l'offre est déjà connue. Une alliance a réussi à se montrer en quelques jours sous la bannière du nouveau Front populaire, allant de micro-partis anticapitalistes à l'ancien président de la République social-démocrate François Hollande. Dans le camp d'Emmanuel Macron, l'heure est à la remobilisation. Le scrutin dont le Rassemblement national extrême droite est favori après son score de 31,4% aux européennes est prévu le 30 juin et 7 juillet.
L'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie, le Mexique et les Émirats Arabes Unis figurent parmi les pays participant à un sommet sur la paix en Ukraine qui n'ont pas signé le communiqué final, a déclaré le gouvernement suisse. Le Brésil, qui figurait en tant qu'observateur sur la liste des participants, n'a pas non plus signé le communiqué. La Suisse, qui accueillait le sommet, a déclaré que plus de 90 pays avaient participé aux discussions et que la grande majorité d'entre eux avaient signé le texte. Un navire philippin est entré en collision aujourd'hui avec un bateau chinois en mer de Chine méridionale, près des îles Spratlys, que se disputent les deux pays, ont affirmé les gardes-côtes chinois. Le navire de ravitaillement philippin a ignoré de nombreuses sommations de la partie chinoise et s'est approché du vaisseau chinois de façon non professionnelle, provoquant une collision, ont indiqué les gardes-côtes. Pékin accuse le bateau d'avoir illégalement pénétré dans les eaux près du récif Rinnai. L'armée philippine a rejeté les affirmations des gardes-côtes chinois sur cette collision. 8 personnes sont mortes asphyxiées dans un camion réfrigéré en Chine, ont annoncé dimanche les enquêteurs. Le chauffeur a trouvé 8 personnes inconscientes et qui suffoquaient dans une camionnette réfrigérée qui les conduisait vers une ville de la province centrale du Henan, d'après les enquêteurs. Le chauffeur ainsi que d'autres personnes impliquées sont en garde à vue, précise le texte, ajoutant qu'une enquête a été ouverte. Au moins 6 personnes ont été tuées et 30 autres sont toujours portées disparues après que de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain dans une région touristique au sud de l'Équateur, annoncent les autorités. La catastrophe est survenue dans la municipalité de Baños de Agua Santa, une zone pittoresque de la province de Tougouroua, située au pied d'un volcan actif. Et puis ici aux États-Unis, l'État du Maryland va annuler 175 000 condamnations pour consommation de marijuana prononcées au cours des dernières décennies, a annoncé son gouverneur Wes Moore hier dans un média américain. Le démocrate et le premier gouverneur noir du Maryland ont rectifié un grand nombre d'erreurs historiques en signant ce décret de grâce donc ce lundi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, nous vous proposons la Minute Éco. Ce matin, elle est signée Nathalie Barge.
Le gouvernement ivoirien a annoncé une augmentation de 11,5% du budget national pour 2025, atteignant 15 300 milliards de francs CFA contre 13 721 milliards de francs CFA cette année. Selon les prévisions gouvernementales, cette tendance à la hausse devrait dépasser les 17 000 milliards de francs CFA en 2026. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé avoir contracté un prêt de 500 millions de dollars auprès de banques asiatiques. L'ICBC et la SCB ont agi en tant que coordinateurs. Le produit du prêt syndiqué à deux tranches de 3 ans et 5 ans sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise. Un récent rapport de la Banque mondiale indique qu'au moins 1,18 milliard de personnes sont en situation de pauvreté énergétique et ne peuvent pas utiliser l'électricité. C'est 60% de plus que les 733 millions de personnes qui n'avaient aucune connexion électrique en 2020. La plupart n'a pas accès à l'électricité et les 447 millions de personnes parmi elles qui sont électrifiées n'utilisent pas cette électricité.
Sans transition, voici les nouvelles sportives présentées par Élisée. Bonjour Élisée.
Et bonjour Nanita, et bonjour à tous.
À l'Euro, l'Angleterre assure le service minimum pour son entrée en lice.
Oui, la sélection anglaise, l'une des favorites de la compétition, s'est imposée sur la plus petite des matchs 1-0 contre la Serbie. Une réalisation de Jude Bellingham. Les True Lions prennent la première place du groupe C après le nul 1-1 entre le Danemark et la Slovénie. Dans la poule D, les Pays-Bas sont provisoirement en tête après leur succès 2-1 contre la Pologne.
Dans ce groupe D, la France débute aujourd'hui.
Les Bleus seront à Düsseldorf ce soir pour lancer leur tournoi face à l'Autriche. La France, avec sa star Kylian Mbappé, récemment transféré au Real Madrid, font figure de favoris pour remporter un trophée qui leur échappe depuis 2000. Mais auparavant, dans la poule E, la Roumanie et l'Ukraine s'opposeront à 13h UTC à l'Allianz Arena, puis il y aura un Belgique-Slovaquie à Francfort à 19h temps universel.
Direction la RDC, la S Vita Club remporte la Coupe nationale.
Sa première depuis 2001, après avoir battu 1-0 en finale, Céleste FC de Mbandaka au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce sacre sauve la saison du club de Kinshasa, qui a connu une saison difficile en championnat, d'où la satisfaction de son entraîneur, le Marocain Abdeslam Ouadou.
Une coupe, ça se joue pas, ça se gagne. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque c'était pas un match facile. On est tombé contre une très belle équipe de Céleste. On peut pas dire qu'on a fait un grand match, mais on a été efficace, effectivement, avec une organisation tactique très huilée. On a pu contenir ce résultat. Et j'ai envie de dire merci aussi au public qui nous a supportés nombreux, pas seulement maintenant, mais aussi au cours de cette saison. On leur dédie ce trophée.
À l'instant, Abdeslam Ouadou, entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa, qui sauve sa 10e Coupe du Congo, est désormais qualifié pour la Coupe CAF avec le FC Lupopo, qui a fini 3e du championnat.
Football toujours, mais dans le sable, avec le tirage au sort de la CAN de Beach Soccer, Égypte 2024.
Au total, 14 nations participeront aux éliminatoires qui se dérouleront en deux matchs aller et retour pour déterminer les 7 sélections qui rejoindront l'Égypte en phase finale de cette compétition. Au premier tour, on aura donc Sénégal, Guinée, Angola, Maroc, Ghana, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Nigeria, Tanzanie, Ouganda, Seychelles, Mozambique et Burundi, Malawi. Les matchs aller auront lieu du 19 au 21 juillet prochain et les retours entre le 26 et 28 juillet.
Voilà, c'était la page sportive avec Élisée Oukpatin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours en votre compagnie. Passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise actuelle au Soudan représente une menace existentielle pour l'État, exacerbée par la violence croissante à El Fachir et dans les régions avoisinantes. Cette situation désastreuse est caractérisée par des conditions humanitaires critiques et des défis majeurs dont la protection des civils. Quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui entravent la résolution de ce conflit complexe et quelles stratégies pourraient être efficacement déployées pour atténuer cette spirale de violence et restaurer la stabilité dans la région ? Eric Manirakiza s'est entretenu au téléphone avec Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Le problème, c'est la survie de l'État soudanais. Parce que la bataille d'El Fachir, qui va se terminer probablement d'ici peu de jours par la victoire des métis, c'est-à-dire de celui qu'on appelle encore le rebelle, alors qu'en fait il partageait le gouvernement avec son ennemi, le général Burhan, c'est un véritable dépiotage du pays. Et ça montre une chose, c'est l'influence des traditions coloniales. Parce que les gens disent toujours c'est une colonie britannique. Non, ça n'était pas une colonie britannique. On parlait à l'époque du Soudan anglo-égyptien. Et le mot égyptien lui-même était faux. On aurait mieux fait de dire anglo-ottoman. Parce que le Soudan, depuis 1821, et c'est un pays qui n'existait pas avant cette date, a été une colonie ottomane, c'est-à-dire de l'Empire turc. Et c'est ça qui est en train de partir en morceaux.
Quelles sont maintenant les raisons principales pour lesquelles la situation au Soudan continue de s'enliser, malgré les efforts de médiation et les résolutions internationales ?
Oui, les efforts de médiation et de résolution internationale sont très minces. Il n'y a pas vraiment un gros souci. On fait semblant de s'en soucier du bout des lèvres, mais par exemple les conversations à Jeddah n'ont pas repris, elles étaient uniquement d'ailleurs sur le plan humanitaire et pas politique. En gros, il y a une négligence générale de la communauté internationale vis-à-vis du cas soudanais, qui est, Dieu merci pour la lucidité de M. Perriello, représente aujourd'hui au moins 150 000 morts et pas 16 ou 20 000 comme le disent les Nations Unies.
Et quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui empêchent la résolution du conflit, en particulier en ce qui concerne les forces de soutien rapide et le gouvernement soudanais ?
Chacun a ramassé quelques petits groupes de milices derrière lui, mais les deux acteurs sont effectivement ceux-là. Et on ne peut pas rentrer dans l'histoire du Soudan, mais ils représentent l'un et l'autre deux morceaux de la réalité du Soudan ottoman, c'est-à-dire du Soudan du XIXe siècle, que les Anglais n'ont jamais démonté. Quand ils sont revenus en 1898, ils ont repris toutes les structures de la colonisation ottomane. Après l'élimination des islamistes qui ont essayé d'introduire un tiers point entre ce qui sont les gens de l'Ouest et les gens du fleuve, ça a marché un certain temps et en 2019, ça s'est effondré.
Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun ou dans la région de l'Est, de nombreux enfants centrafricains travaillent sur les sites miniers. Il s'agit d'enfants orphelins ou issus des familles ayant fui la guerre et qui ne résident pas dans les camps de réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Certains enfants ont laissé leur vie sur ces sites miniers à la suite d'éboulements. Davantage avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Bien sûr, la mort, c'est pour nous tous. On doit partir. Mais ce n'est pas avec le casse. Le casse, c'est vraiment mauvais.
Jimmy Mama est un ressortissant centrafricain vivant à Baturi au Cameroun, à 400 km de Yaoundé. En 2021, Youssouf, son neveu âgé de 16 ans, a trouvé la mort à la recherche de l'or au village Kambélé 3, dans la région de l'Est, voisine de la République centrafricaine.
Dans la nuit, vers 4 heures. Les enfants qu'elle part marcher avec eux, et ils ont marché ensemble, c'est les enfants-là qui sont venus. Mais quand il a la porte, vers 3 heures du matin, il m'a dit que voici, la trou est tombée sur Youssouf. On est en train de creuser. Bon, maintenant, c'est difficile pour nous. On n'a pas trouvé la corde jusqu'à maintenant. On m'a arrivé et nous sommes allés creuser avec eux. Et vers 4 heures, 5 heures, on a trouvé la corde.
C'est sur le site minier d'une société chinoise dénommée Menchenu Wang Woping, laissé ce jour-là à ciel ouvert, que le jeune centrafricain Youssouf est décédé. Il y a 2 ans, un procès s'est ouvert contre ces sociétés chinoises au tribunal de Baturi, à plus de 400 km de Yaoundé. Dieudonné Dissi, avocat de la victime.
Du point de vue juridique, il faudrait que les sociétés chinoises comprennent qu'il y a un code minier qui doit être respecté au Cameroun. Si l'administration des mines assumait pleinement ses responsabilités dans les chantiers miniers, on ne se retrouverait pas avec ce genre de situation. Heureusement que la gendarmerie nationale essaye de les supplier dans leur manquement. C'est un message fort et qui a envoyé à tous les autres expatriés, y compris les locaux qui s'associent avec ces expatriés, que leurs actions ne peuvent pas rester impunies.
Mais l'on retrouve encore de nombreux enfants centrafricains à la recherche effrénée de l'or sur les chantiers miniers dans la région de l'Est. L'un d'eux témoigne.
J'ai pu creuser la terre, j'ai trouvé cailloux, j'ai concassé, j'ai pas, il écrase. Je lave avec Merkel. Quand j'ai trouvé ce que j'ai donné, même une bichette, même 5 bichettes que j'ai mangé avec.
Jospin a, quant à lui, quitté la Centrafrique en 2015. Il avait alors 7 ans. Aujourd'hui, il dit gagner sa vie sur un site aurifère au village Mali, dans la région de l'Est.
Ça veut dire c'est au sentier. Bon, le loge, si j'appaye à l'autre, ça ne paye pas. Parce que l'or, ça dépasse le charge. Quand tu as la charge, ça paye. Ça fait de même si ça c'est 100 000 ou à 700 000. Quand tu n'as pas la charge, ça ne paye pas.
Les autorités camerounaises tentent d'endiguer le phénomène du travail des enfants sur les sites miniers dans la région de l'Est. Yada Yakuba, préfet de la Kadéi, dont la localité de Baturi est le chef-lieu.
Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique a prescrit, n'est-ce pas, l'interdiction de ces enfants dans les sites miniers. J'ai demandé donc à toutes les autorités qui sont au niveau des arrondissements d'appliquer cette mesure.
Ces 7 dernières années, les organisations de la société civile locale affirment qu'au moins 200 personnes sont mortes sur les sites aurifères dans la région de l'Est, parmi lesquelles des enfants de nationalité centrafricaine. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, comme partout sur le continent, l'économie informelle est presque au cœur de l'activité des grandes villes. Malgré de nombreuses opérations municipales contre l'occupation anarchique des espaces publics, vendeurs ambulants, démarcheurs de grandes enseignes ou les mototaxis restent maîtres du terrain à Libreville. Sur place, le reportage de notre correspondant Ismaël Obianzi.
Assis sur un banc devant l'arrêt bus du carrefour Léomba à Libreville, Mansoura vend des jus de fruits. Dans sa quête du chiffre d'affaires, la Camerounaise de 38 ans n'est pas à l'abri des difficultés.
Les jus qui sont en manque, et la hausse des prix des jus aussi. Sans oublier les contrôles et et la mairie aussi. La mairie nous embête beaucoup, on a tendance à dire qu'ils nous dérangent, c'est de trop. Se retrouver dans un petit commerce à payer 1800 de tickets par jour, c'est énorme.
Des pousseurs de brouettes dans le grand marché situé juste à côté, aux démarcheurs de clients pour grands magasins à Libreville, le travail informel reste, selon certains, un moyen de survie. Steve, 25 ans, se sent bien dans la peau de débrouillard.
Moi, mes clients, je prends les clients, j'amène au magasin. Quand ça valide, j'ai un petit quota. On est coché un peu pour nous. Pour faire 300 par client, 250. Ça dépend du nombre de clients que tu aurais. Ça fait ta journée. Au lieu de voler, braquer.
La seule certitude des acteurs de l'économie informelle, c'est l'incertitude. À défaut de croiser les bras, beaucoup se sont créés des emplois qui n'existaient pas encore. C'est le cas de Yacine, devenu photographe ambulant.
À peine le mot moyen, je peux sortir avec 70, 80. Si j'épargne vraiment, si je n'ai pas de dépenses à faire. Je suis là, je m'amuse avec mes collègues, je me débrouille. Je rentre chez moi à n'importe quelle heure, en tout cas, je ne dérange personne.
Avec plus de 40% de jeunes chômeurs selon les estimations officielles, le marché gabonais de l'emploi connaît une crise sans précédent. Pour contourner la difficulté, Daniel et l'un de ses amis étudiants en logistique et transport vendent des essences de parfums dans les rues de Libreville.
Le but c'est cela, c'est pour avoir un capital pour atteindre acheter le taxi. Ce business au début était difficile parce qu'on fait du porte-à-porte, on fait de maison en maison, on marche la difficulté et le soleil, mais le plus important c'est d'avoir un petit revenu, quelque chose dans la poche, il ne faut pas rester à la maison. Bon, parmi les risques, il y a la mairie qui peut nous prendre déjà.
Quelques incompréhensions avec des clients malhonnêtes, j'imagine.
Bien sûr, deux fois, il y a d'autres qui peuvent vous payer sur place. Ils vous demandent de donner un bon. Après, tout le temps, il faut courir au téléphone pour l'appeler, pour appeler. Donc, c'est un peu compliqué, bah, mais c'est le risque du métier. Hein.
Le secteur informel représente 41% du produit intérieur brut gabonais et emploie un grand nombre de personnes vivant au jour le jour d'une activité occasionnelle. Ismaël Obionzé, Libreville, pour VOA Afrique.
Au Bénin, la lutte contre le travail des enfants piétine malgré l'existence d'un arsenal juridique sur la protection des enfants. Au lieu d'aller à l'école, certains enfants continuent d'être exploités sur les chantiers de construction, au marché et dans les ménages. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
La banalisation du phénomène du travail des enfants par certains adultes au Bénin est en totale contradiction avec le Code de l'enfant voté depuis 2015. Sœur Triana Borsani fait partie de la congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco. Depuis de nombreuses années, elle se bat pour protéger les enfants.
Les enfants qui travaillent au Bénin, il y en a trop. On ne se pose plus la question, mais cet enfant-là, pourquoi il est là? Il doit être à l'école.
En dehors des travaux familiaux traditionnels, les enfants sont employés comme domestiques pour faire du petit commerce ou sont envoyés sur des chantiers pour des travaux dangereux dans les domaines de l'agriculture, la maçonnerie, la soudure et autres. Jeanne Larroy se bat elle aussi depuis de nombreuses années pour donner un autre destin aux enfants placés dans les ménages.
Ces enfants passent sous nos yeux, vous et moi, et nous les regardons sans pouvoir rien faire. C'est vraiment dramatique. Moi, j'en appelle à la responsabilité politique parce que les ONG à elles seules ne peuvent rien faire.
Selon les résultats de l'enquête réalisée par l'INSTAD, le taux de prévalence nationale en matière du travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Malgré cette avancée, le phénomène reste tenace en milieu ouvrier.
Pour apprendre chez nous, il faut avoir au moins 16 ans. La majorité sont allés à l'école, au moins le niveau 3e.
Dans notre organisation professionnelle, nous vulgarisons ça et nous encourageons les patrons d'ateliers, d'instituts, de ne pas prendre moins. Le minimum, c'est quand même l'acte de naissance. Et sur l'acte de naissance, on peut bien voir l'âge de l'individu.
Au sein de la population, tout le monde se dédouane ou ferme les yeux devant le phénomène.
Souvent, c'est le milieu ou l'encadrement des enfants qui fait que les enfants bifurquent souvent dans des domaines où c'est les parents même qui les poussent.
Et j'exhorte les parents à bien encadrer leurs enfants, leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent.
Au Bénin, le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Esther Diossa est administratrice de l'action sociale.
L'enfant ne doit pas travailler avant l'âge de 14 ans minimum. Il faut nécessairement qu'il ait 14 ans et qu'il ait eu quand même à finir le primaire, c'est-à-dire faire de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Il peut obtenir le CEP ou non, mais avant qu'un enfant ne travaille, il faut ces préalables-là. On ne doit pas le contraindre à faire des activités contre sa volonté, par exemple l'obliger à aller s'asseoir dans une boutique ou bien aller vendre dans les marchés ou carrément être utilisé à des fins de films pornographiques et tout ce qui va avec.
Le Bénin ambitionne d'atteindre l'objectif de développement durable en matière de travail des enfants et devra prendre des mesures immédiates pour éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2025. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous et de rester fidèles au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Nanit Talani, à la réalisation, Firmin Max Kouyaouida. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.